pour reconnecter Martine.
Hey, comment ça va?
À Karim.
Super, pour vrai, ça fait longtemps.
Et Karim, à la bibliothèque.
Oups, excusez.
Il y a la STM. La meilleure façon de se reconnecter.
Bonjour et bienvenue à Escale 1718 avec Fulgence Plat au micro et Nicolas Vadman à la technique. Oui, cette émission pas spéciale, mais j'ai un invité de marque. Première partie d'émission, normalement les mardis en première partie d'émission, j'ai mes petits sujets à moi que je traite. Alors, je profite de ce petit trou là pour recevoir le grand Dany Laferrière qui va nous parler de son nouveau roman sur la route avec Bacheux. Et je lui dis merci d'abord avant de lui dire bonjour. Il nous a permis, moi il m'a permis de découvrir ce poète du XVIIe siècle japonais que je ne connaissais pas du tout, je n'ai jamais entendu parler de lui. Grâce à Dany, voilà, on sait, ceux qui ont déjà lu le livre et ceux qui vont l'avoir sauront qui est maintenant Bacheux, ce poète, ce spécialiste de haïku d'ailleurs.
Il a un nom facile à retenir, Bacheux.
Bacheux.
Bacheux veut dire bananier.
Bananier, oui.
C'est parce qu'il a un de ses disciples qui lui avait donné un bananier. Alors, il a aimé tellement son bananier qu'il a pris le nom de Bacheux.
Bonjour, Dany Laferrière.
Bonjour, Fulgence.
Comment allez-vous?
Ah, moi, ça va bien. Ça va bien. Un peu fatigué parce que j'ai fait la route aller-retour en voiture Québec-Montréal pour le Salon du Livre, qui s'est très bien passé, ce Salon du Livre de Québec.
J'en ai parlé ici.
Où il y avait plein de gens. Les gens avaient vraiment été affamés, littéralement, d'alphabet.
Ah, oh, j'aime tout, ça.
Ils assoiffés d'encre. et assoiffés d'encre. et ils étaient venus en foule. Et les enfants aussi, c'était tellement, tellement reposant de voir les enfants comme ça courir dans les allées pour, à la recherche de leurs auteurs préférés, de leurs livres.
Oui, oui, oui. Alors, et puis en deuxième partie d'émission, je vais recevoir Dominika Merola, qui est chanteuse, pianiste, compositrice d'ailleurs, et hommage au 400e de Marguerite, Bourgeois. Voilà, elle va venir nous. Elle vient pas en studio, je vais la recevoir au téléphone, mais il y aura quelques pièces qui seront passées. Après, elle sera en tournée en France, en commençant par la ville de naissance de Marguerite Bourgeois, la ville de Troyes, où elle est née.
Oui, tout à fait. J'étais il n'y a pas longtemps là,
oui.
Invité d'honneur au festival de Troyes, et là que j'ai vu, il n'y a pas que Marguerite Bourgeois, il y a une bonne quantité de l'élite française qui est arrivée ici. Et pas seulement, et comment s'appelle, enfin, Champlain, il y a, enfin, et toute la belle équipe venait de cette ville de Troyes.
De cette ville de Troyes.
Ou de la région.
De la région de Troyes, ouais, de cette région-là. On va écouter une première pièce musicale tout de suite. Quelqu'un qui a une voix qui va vous rappeler la belle vieille époque. Manu Dibango, Soir au village.
Une voix s'élève au lointain, invitant aux prières du soir, et la nuit s'étend sur le village. Les femmes bercent leurs enfants et les hommes allument leur pipe, oh, oh, yeah. Et la nuit s'étend sur le village. Et par un au clair de lune.
Écoutez-le, Singamoua.
Le tintin résonne. Oh, 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 oh. En boutant nos corps et âmes, par sa mélodie.
nabe mutum sabi unan sabi ke minia palangwa be obebuku papa atabaranga tomia mo majela muka modimo unya te dimegende suna 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 suna. Les femmes bercent leurs enfants et les hommes allument leurs pipes et la nuit s'étend sur le village. La grand-mère a préparé un bon poisson aromatisé avec du bon foufou. C'est ça la vie au village. Et la nuit s'étend sur le village. Sur le village. Sur le village. Sur le village.
Ouais, c'était Manu Dibango, Soir au village. Que son âme repose en paix. Il nous a quittés il y a quelques années déjà.
Ah, c'était au début de la COVID.
Oui.
Oui, je me souviens très bien. Manu Dibango avait fait la musique du film « Comment faire l'amour avec un ex sans fatiguer ». Je l'avais rencontré à Paris quand il préparait la trame musicale. C'est un homme tellement doux, tellement cultivé aussi. Et qui sage parce que il a laissé partir son best-seller Soul Makossa, Makossa, Makossa. Et pour l'avoir fait, c'était ça très intelligent de ne pas essayer de reproduire le même son, même si c'était un son connu mondialement.
Oui, oui. Alors, Danny, on va parler de Sur la route avec Bachot. Comment l'idée vous est venue de faire ce voyage sur la route avec Bachot?
Ah ben Bachot, je le côtoie depuis très longtemps. Je l'avais rencontré, enfin, pas l'individu, le poète qui a vécu il y a 3 siècles, mais plutôt son œuvre, une de ses œuvres les plus, disons, exceptionnelles, ce voyage vers le nord du Japon, et voyage sur la route étroite du district du Nord, et où il raconte le voyage en même temps qu'il glisse à l'intérieur de sa prose, de ce journal de voyage, journal de bord, et de petits poèmes, des haïkus, des poèmes très brefs, de 3 vers, et qui disent une émotion instantanée, et qui a pour but de résister au temps. Bon, pour le faire, il faut être totalement nonchalant, en totale détente, en pleine sérénité, mais en même temps aussi être comme une arbalète et dont la flèche est prête à partir. C'est très compliqué. C'est un mélange de grande détente et de tension forte.
Ouais, je suis allé lire quelques vers de lui d'ailleurs, quelques petits haïkus. C'est toujours 3-4 phrases, pas plus. La plupart du temps, c'est 3 phrases.
Oui.
3 petits vers.
3 petits vers même. Des fois, c'est pas, même pas une phrase. Des fois, c'est un mot. Et puis, 3 mots en dessous, 3 mots. C'est très court, c'est très bref, mais c'est incisif. Et c'est comme suspendu. Par exemple, il dit « Les enfants qui imitent les cormorans sont plus drôles que les cormorans. » Et donc, il y a là cette facilité. Il faut pas... La traduction française n'est pas très bonne. Et c'est des idéogrammes. La traduction française n'est pas très bonne. Donc, il faut l'avoir lu en japonais, j'ai l'impression. Mais en même temps, il y a une sagesse. Et c'est vrai que l'imitation est quelque chose d'extrêmement important. Quand les enfants font semblant de voler, et c'est encore plus drôle qu'un oiseau qui vole.
Vous avez entendu, hein? Ça vient de Danny Laferrière. Alors, Danny, qu'est-ce qui vous a impressionné chez lui, au fait même? Qu'est-ce qui vous a attiré? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes intéressé à son parcours, à son carnet de voyage?
Son goût de la lenteur, et dans ce monde d'aujourd'hui, presque le monde de son époque aussi déjà, chaque monde a sa vitesse et sa lenteur. Oui. Il y a des gens qui voudraient vivre à toute vitesse et il y a d'autres qui veulent ralentir le monde. Et pour pouvoir goûter le paysage. Lui, c'est son cas. Il a pris la route, il était assez âgé, pas très, mais à l'époque, il n'était pas en bonne santé.
Oui.
Il a pris la route, une très longue route, pour aller jusqu'au bout, et vers les districts du Nord, et pour aller voir un coucher de soleil, et à pied, et naturellement. Il était accompagné de son disciple Sora qui s'occupait enfin des petits besoins du vieux maître. Et de temps en temps, il restait, il conversait avec les gens rencontrés sur la route. Il parle beaucoup de poésie et de poètes, les poètes qui l'ont précédé sur ce chemin. Et c'est tout simplement cela. Et dire que ce petit texte, je ne sais pas moi, de 120 pages, ce petit voyage accompli, et ces quelques poèmes glanés ici et là ont résisté au siècle.
Dans mes recherches, avant de venir, dans mes recherches, quand j'ai eu la confirmation de notre rencontre, je me suis dit non, il faut que j'aille chercher quelque chose sur lui. Il a écrit plus de 2000 haïkus.
Oui, il a beaucoup écrit. Et ben c'était sa vie, c'est une façon de respirer pour lui, écrire des haïkus. C'est une façon de. C'est comme si ce qu'il voit devient haïku. Ce qu'il ressent devient haïku. Il faut qu'il devienne haïku pour fixer l'émotion et partager, sûrement. Parce que quand nous, 3 siècles plus tard, on relit ou on lit ce qu'il a écrit, j'ai dit bien relire, parce que pour être sûr, il ne faut pas chercher à trop comprendre les haïkus, même si c'est très clair, il faut ressentir. L'idée, c'est de faire ressentir.
Oui.
C'est-à-dire, l'idée d'un poète comme Bachot, c'est de disparaître dans le paysage et de faire corps totalement avec le paysage. Et de tenter de décrire le paysage du point de vue du paysage. Décrire une forêt du point de vue de l'arbre, c'est une idée de poète de haïku.
J'ai donc parcouru le monde pour ne retenir que ces images troublantes, ouais, tremblolantes, mais pareil à des grains de poussière qui dansent dans la lumière du matin. À première vue, on ne voit pas le rapport entre l'auteur, l'énigme du retour et le poète japonais, d'autant qu'ils sont nés à quelques siècles d'écart.
Oui, mais c'est ça le charme, ou plutôt la grande magie du livre. Je continue à croire que le plus beau cadeau qu'on nous a fait, le don des dieux, c'est le livre qui permet de lire et d'avoir l'intonation, la musique et le sentiment de gens qui sont morts depuis longtemps. Et c'est une magie parce que à tout moment, on peut ouvrir un livre et se mettre à converser avec Socrate, qui est mort depuis si longtemps, ou même beaucoup plus loin, c'est Augustin. Et à tout moment, on peut le faire. N'est-ce pas magique que de se taire pour lire quelqu'un qui est mort? Et le vivant fait silence pour lire le mort. C'est extraordinaire. Et si on vous avait dit qu'on allait faire apparaître quelqu'un qui est mort depuis 600 ans, on aurait dit « c'est pas possible ». Mais nous le faisons constamment.
Oui.
Dès que nous ouvrons un livre ou nous écoutons de la musique, tout à l'heure, Manu Dibango fait semblant de mourir parce que nous venons de l'entendre chanter et c'était lui qui chantait.
Oui.
On ne peut pas dire qu'il est mort.
Non.
Il fait semblant de mourir.
Oui. Il fait semblant de mourir. Ils sont toujours parmi nous,
oui,
dans nos cœurs, dans nos oreilles, et puis nous permettent à travers leurs plumes. Et Dany, mais je ne savais pas que Dany dessinait.
Et moi non plus. Et moi non.
Alors,
plus. Depuis ça, 2018.
Voilà, c'est le troisième avec.
Cinquième même, mais quatrième.
Quatrième avec le petit crayon, les feutres. Qu'est-ce qui vous a orienté vers ça, ce style d'écriture?
Oui, j'aime bien ce style d'écriture parce que c'est précisément cela d'ailleurs. C'est Cocteau qui disait que l'alphabet c'est du dessin organisé. Et du dessin discipliné. Un A, c'est pas seulement un A, il faut pouvoir le faire.
Oui.
Et il faut faire le rond, on l'a bien appris à l'école. Et quand les enfants, on a oublié qu'on l'avait appris à faire des A, des B, des C, ça a pris la moitié de l'année.
Oui.
Et pour qu'on fasse les leçons d'écriture. Eh bien, donc c'est pour nous, disons, avec l'alphabet. Et là maintenant, on est en train de détruire ça, puisque j'ai appris que dans certaines écoles, certains enfants du monde, aux États-Unis surtout, n'apprennent plus à écrire, l'écriture à la main. Tout
non,
est fait par ordinateur,
les cellulaires, les
iPads. On perd le goût de l'écriture, on perd le goût du mouvement, on perd l'œil et la main,
oui.
Le rapport de l'œil et la main qui produit quelque chose et d'artisanal. Donc c'est la caresse de la paume et sur la page. Ce sont des actes extrêmement sensuels et qui notent chez l'être humain un goût pour l'artisanat. Et nous faisons des choses. Par exemple, quand je fais un livre, quand je dessine, j'écris. J'ai déjà fait, là, vous voyez, des choses un peu imprimées. Mais les autres précédents, il n'y avait rien d'imprimé, sauf le code-barre. Et tout était fait à la main.
Oui.
Et je peux faire un livre à la main. Je peux le coudre et faire tout seul un livre à la main, avec l'écriture à la main et avec le dessin que je fais aussi. Et donc, c'est très important de revenir à cette main au moment où nous l'avons perdue il y a quelques décennies à peine, hein, il n'y a même pas 60 ans, oui. On a perdu la main et elle a été remplacée par une petite machine. Et ce que nous faisions avec tous nos doigts, nous le faisons maintenant avec nos deux pouces.
Oui.
C'est pas sérieux.
Ce que j'adore là-dedans, c'est que chaque image décrit le petit, les trois, quatre, trois phrases, ou bien une phrase, ou bien les petits mots qui sont là en même temps. C'est la description parfaite même de l'image qui est là.
Et qui est à l'intérieur aussi de ce dessin, de cette page, oui. Où les couleurs primaires dominent. Et bon, alors l'idée, c'est un personnage étrange, chaleureux, qui s'appelle Caméra,
oui.
Qui a de grands yeux, une sorte de lémurien, et qui quitte sa petite maison dans la forêt et qui entreprend d'aller regarder le monde. Bon, il s'appelle Caméra, il est vraiment un animal chaleureux, le genre de petit animal, un petit écureuil, un petit... Mais en fin de compte, c'est une caméra. C'est-à-dire, elle ne juge pas. La caméra ne juge pas. Elle regarde le monde. C'est un monde survolté. C'est un monde surpeuplé, le nôtre. C'est très urbain. C'est très animé. C'est violent parfois. Et c'est doux. C'est un monde aussi réfléchi, qui peut réfléchir sur des choses comme la disparition de la mort et dans certains lieux. Les choses paraissent si maîtrisées, si organisées, si bien décorées, si architecturées, qu'on a l'impression que la mort n'y est pas, alors c'est là qu'elle est vraiment,
oui.
Quand on ne la voit pas. Ce n'est pas seulement sur les théâtres de guerre que se trouve la mort.
Elle
la mort se trouve dans un salon bourgeois, très calme, où un chien est par terre, un chat est couché sur le divan, une grand-mère tricote, elle est là, tapis. Et donc, il y a des réflexions comme ça, réflexions sur la douleur, réflexions sur les manifestations publiques, et comme une manifestation à Hong Kong sous la pluie, ou bien encore les manifestations des jeunes noirs aux États-Unis.
D'où est né le Black Lives Matter.
Absolument. Mm-hmm. Donc, il y a aussi des endroits ou des espaces où il ne se passe rien. Une jeune femme attend au coin de la rue. Et quelqu'un, elle semble fâchée, et le petit texte dit « Hildegarde m'attend au coin de la rue », c'est à Berlin, et Hildegarde fâchée m'attend au coin de la rue, et qui n'a pas déjà été attendu, fâché quelqu'un au coin de la rue, ou qui n'a pas été inquiet en pensant que quelqu'un... Parce que je ne mets pas seulement des réflexions intellectuelles ou morales, et ou même philosophique, il y a aussi des choses de la vie,
de la vie de tous les jours.
Par exemple, il y a un texte qui dit au coin de la rue Ontario et Saint-Denis, c'est tout près d'ici.
Oui.
Un homme me fonce dessus. Et on ne sait pas. Est-ce que c'est un ami qui lui fonce dessus pour dire ah, ça fait longtemps que je vous ai pas vu, ou est-ce que c'est une voiture, ou c'est un vélo,
ou c'est juste un agresseur.
C'est ça. Ou c'est juste un agresseur. On ne sait pas, mais ça arrive dans les coins de rue comme ça. Un homme me fonce dessus.
Oui.
Pour moi, c'est de la poésie aussi. C'est une sorte de quelque chose d'instantané,
oui.
Et qui est capté. C'est pas le geste qui est poétique, c'est l'œil qui capte, qui regarde.
Qui regarde. C'est comme ça, quand on regarde un tableau, on doit croire qu'il nous regarde aussi.
Oui, c'est oui.
Ça,
oui, c'est un petit texte qui dit cela. Quand on regarde un tableau, on doit croire.
Oui.
Parce que c'est pas simplement de dire peut-être que le tableau nous regarde. Non, c'est pas le tableau qui nous regarde. C'est pas le fait. C'est à nous de faire l'effort de croire que le tableau peut nous voir aussi. Parce que le tableau, il est fait avec l'âme, l'émotion de quelqu'un d'autre qui peut rester vivant, et cette âme peut rester vivante et pouvoir regarder.
Une petite pause musicale, et puis on va continuer. On fait un petit clin d'œil après au précédent, le petit traité sur le racisme. C'est
de l'art ignare et Dieu sait si c'est laid. Mais les anciens ont-ils appris le solfège pour chanter la sauce? C'est moi le mauvais musicien de sous-sol dans ton salon, avec ma sale voix et mon sale son. Les gens dans la salle savent, j'ai trempé ma plume dans de la sale sève pour écrire les poèmes d'un mauvais élève. En espérant que le vent se lève, j'ai toujours fait ce rêve et je remercie la rue. Tout ce que j'ai pu écrire, c'est sur ses lèvres que je l'ai lu. Celui qui va mourir vous salue. C'est moi le mauvais chanteur avec mes cordes vocales en alu et mes paroles qui ont le palu. J'ai des plaies plein le palais quand je te lis mes ratures. Dis-leur que c'est tout sauf de la littérature. Je n'ai pas beaucoup fait l'école, mes profs m'appelaient espèce d'idiot. Si tu les croises, dis-leur que je gagne ma vie à la sueur de mon stylo. Et si la rue a voulu studio, c'est de l'art ignare et Dieu sait si c'est bon. C'est de l'art ignare, a dit le gospel. Mais les anciens ont-ils appris le solfège pour faire du gospel? Enfant du soleil et de la saule, approche et rince-toi à l'oreille. C'est le petit-fils de Matt Alimondo si tu n'as pas sommeil. C'est de l'art ignare et Dieu sait si c'est laid. Des fois tu tombes sur des trucs, tu te demandes mais qu'est-ce que c'est. Je me souviens d'un concert, au début je croyais que c'était un sketch. Sur scène des chevelus chétifs, tout de stretch, vêtus, tapés sur leur guitare comme si elle leur devait de l'argent. Après ça, dis-moi comment donner une définition de l'art aux gens. C'est comme ce détenu qui fait un tableau pour sa mère. Elle pleure, elle sourit, ça nourrit son amour.
Absolument diamant, quoi. Absolument diamant, quoi. L'art ignare. Voilà. Il dit, si vous rencontrez les profs qui me disaient que j'étais nul, dites-leur que je gagne ma vie avec ma plume.
Voilà.
Ouais.
On ne sait pas qui va réussir plus tard.
C'est ça, c'est ça.
Celui qui regardait par la fenêtre sans cesse et qui dormait au fond, ou celui qui suivait attentivement. On n'en sait rien.
On n'en sait rien. On est le matin avec les médias, on gouverne durant le jour avec les ministres et on meurt le soir avec les conspirateurs.
Oui, il me semble que c'est notre vie beaucoup. Beaucoup de gens dans les grandes villes se lèvent le matin et écoutent les médias, lisent les journaux, écoutent la radio, regardent la télévision avant de partir. Et si c'est quelqu'un qui travaille au gouvernement, et si c'est un premier ministre, il gouverne avec les ministres. Oui. Et il est au pouvoir puisque les médias racontent ce qu'il a fait la veille. Avec les ministres, il prépare ce qu'il fera demain. Mais il y a les conspirateurs. Oui. Et on meurt le soir avec les conspirateurs. Parce qu'on ne sait pas si on verra demain avec tant de gens qui nous regardent un poignard entre les dents.
Dany Laferrière de l'Académie française sur la route avec Bachot. C'est son tout dernier. Il est en librairie d'ailleurs depuis le 5 avril.
Oui.
C'est tout nouveau. Alors, un petit clin d'œil au précédent, petit traité sur le racisme. Je me suis dit, quelle mouche qui a piqué Dany pour ce fait. Il n'a pas eu peur de se faire lancer des pierres, parce qu'il n'habite pas une maison en vitre.
Petit cochon. Hein.
Pour aller traiter un sujet sensible comme ça. Et il est parti, il a pris sa plume, et il est parti, il nous a sorti quelque chose de combien de pages, là, à peu près... Ouais, je me suis dit, mais non. Alors là, quand j'ai commencé à parcourir, j'ai dit oui, là, si, il y a les gens qui lisent ça et puis ils se mettent à se plaindre, alors c'est qu'ils n'ont pas compris ce que Dany a écrit. Le petit traité sur le racisme. Dany n'a pas eu peur de parler de ça?
Ah non, je n'ai jamais peur de quoi que ce soit, surtout des sujets qui font peur.
Oui.
Je prends mon temps pour le faire aussi. Les gens me demandent toujours, je dis, mais je ne vais pas donner d'opinion comme ça en 3 secondes, en 3 minutes, dans un journal, en 450 mots, 750 mots, et puis à la radio. Rapidement, un jour, je réfléchirai sur la question. J'avais déjà beaucoup réfléchi sur le racisme avec cette grenade dans la main du jeune nègre, est-elle une arme ou un fruit, qui est un livre qui traverse l'Amérique.
Oui.
Et qui explique bien ce qui se passe maintenant aux États-Unis avec tous ces meurtres, toutes ces fusillades et tout ce rapport extrêmement violent, les rapports raciaux aux États-Unis, et les rapports de classe aussi.
Oui.
Il ne faut pas que la race efface la question de classe. Oui. Et les petits crèvent aussi, noirs et blancs, et dans ces pays où l'argent domine. Eh bien, j'ai voulu parler du racisme, et puis je l'ai fait librement. C'est-à-dire qu'on est libre quand on place la nuance au cœur de ce qu'on veut traiter.
Oui.
On est toujours libre quand on voudrait être intelligent en écrivant ou en parlant. Quand je dis voudrais, je ne dis pas que je suis intelligent, mais je m'étais dit, j'aimerais bien pouvoir être intelligent au moment de traiter ce livre. À ce moment-là, il faut prendre son temps, parce qu'on n'est pas, il ne faut pas plus être énervé.
Oui.
Il faut y aller avec les nuances possibles. J'ai raconté au début du livre que j'étais à une soirée, eh bien, les gens me regardaient tout le temps. J'étais le seul noir. Les gens riaient.
Oui.
Et les filles riaient. Je suis arrivé dans une salle. Au fond, il y avait plein de filles. Tout le monde, toutes les filles étaient blanches. Les hommes étaient noirs. Et rigolaient. Et moi, j'ai dit, bon, voilà, je viens là et les gens se moquent de moi. Les gens. Et puis finalement, le lendemain matin, j'ai un jeune ami québécois qui m'appelle, me dit, Danny, t'as cartonné hier soir, hein. Toutes les filles voulaient te parler, et puis toi, tu faisais un peu les différents, mais ça marchait du tonnerre. Donc,
C'est une question d'interprétation.
C'est ça.
Ah oui.
C'est ça. J'ai dit, il faut vous calmer, il ne faut pas partir tout le temps avec l'idée que c'est de vous qu'on rit. Peut-être que c'est tout simplement qu'on vous acclame.
Oui.
Il faut aussi se donner une chance. Ne pas partir tout le temps avec l'idée que vous êtes celui qui fait des fautes sans cesse, celui qui n'est pas à la bonne place. Moi, je pars du principe que je suis à la bonne place.
Oui.
Je suis la personne qu'on doit aimer, puisque ma mère m'aime. Tu vois, c'est quelqu'un de bon goût, ma mère. Et donc, c'est normal qu'on m'aime.
Personnel.
Vaut mieux se tromper.
Oui.
Moi, c'est systématique. Et avant, je me trompais chaque fois que je crois que quelqu'un était raciste. Et il ne l'était pas. J'ai pris l'avion avec un type, rasé, tatoué,
oui.
Tout le corps. Il ne m'a pas salué, il est assis à côté de moi. J'ai dit bonjour, il ne m'a pas répondu. Le type, c'est un tueur. Et quand l'avion a décollé, il a sauté dans mes bras. Il est resté, il m'a serré jusqu'à ce que l'avion décolle. Et il avait peur de l'avion.
Il ne
m'avait pas vu. Il était dans son appareil mental. Et quand je l'ai salué, il peut avoir des tatouages partout et avoir peur de l'avion.
Danny, pour terminer, le droit d'être un autre. Au milieu de la nuit, le téléphone sonne, résonne dans le couloir. Cet avocat de l'association des... On est à la fin de l'émission comme ça.
Oui.
Est-ce que c'est une histoire vraie?
Oui, c'était pour le Japon.
Oui.
C'est ça, il voulait...
À cause du livre, je suis un écrivain japonais.
Un procès, il me dit, oui, je travaille pour l'association des écrivains japonais. On va vous faire un procès, vous avez écrit le livre, je suis un écrivain japonais. Vous n'êtes pas japonais, c'est toujours la bonne question de prendre la place de l'autre et dans la culture. Et puis finalement, et quand je lui ai dit qui je suis, il dit que finalement, que c'est très drôle ce que j'ai écrit. Et je lui ai dit, ne continuez pas à faire de procès à un Haïtien. On va vous faire un procès pour le vol des poissons d'Haïti.
Merci beaucoup, Danny Laferrière. Merci. Merci beaucoup, Danny. Voilà. Alors, pour ceux qui ne les ont pas, allez-y, les deux livres sont en librairie.
Pour reconnecter Diego.
Salut tout le monde, ça va bien?
À ses collègues.
Hey, allô le petit nouveau.
Et ses collègues, à Diego.
C'est parce que ça fait 7 mois que j'ai commencé.
Il y a la STM. La meilleure façon de se reconnecter.
Vous écoutez Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
I'm matin de printemps, de la Providence aux Ursulines, elle reste nos enfants. Les filles du roi sont parties un jour. Elles étaient la Nouvelle-France.
D'écouter les filles du roi, et c'était la voix de Dominika Mérol, notre invitée qui va être avec nous pour parler d'ailleurs comment elle a, juste pas pour le cas santé, comment elle a vécu cette pandémie, parce qu'elle est remontée sur scène pour présenter un hommage pour le cas centième de Marguerite Bourgeois à la chapelle Notre-Dame de Bon Secours de Montréal. Alors, et puis après, le 17 avril, c'est une date qui me dit quelque chose. Je pense bien que c'est la date de naissance de Marguerite Bourgeois, si je ne me trompe pas, mais quelque chose comme ça de ce genre, à Troyes, en France, elle nous le dira. Voilà, elle va s'envoler pour la France, oui, pour une tournée, tout un tas de spectacles. Bonjour Dominika.
Mais bonjour Jean.
Oui, comment allez-vous?
Ça va très très bien, un peu fébrile avant mon départ en fait.
Oui, chanteuse, compositrice, pianiste. Qu'est-ce qu'elle ne fait pas?
Oui, alors, avant, c'est qu'avant la pandémie, j'y allais comme deux fois par année en Europe. Je chantais en Belgique, en France, et même j'ai chanté au Portugal. Et puis, bon, évidemment, la pandémie est arrivée, elle a touché tous les artistes, et
oui,
puis tous les gens partout, en fait, dans tous les domaines.
Oui.
Et ce qui est extraordinaire, c'est que deux ans plus tard, une belle tournée a été organisée, et puis... Là, on sent vraiment que c'est reparti. Et puis, bon, même s'il y a encore comme... on vit avec, quoi. Je veux dire, on vit avec la pandémie maintenant. Et puis, on sait comment faire comme pour se... faire attention et tout ça. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai 11 spectacles, 11 concerts, en fait. Ce sera un voyage d'environ 5 semaines,
oui,
une tournée.
Oui, oui, j'ai vu les événements à venir, la programmation, votre programmation,
oui,
je me suis dit... En tout cas, elle va pas chômer.
Non, et puis, je veux dire, je dois être en forme. En fait, c'était beaucoup de travail, d'organisation, de planification.
Mm-hmm.
Mais en fait, là, on va être dans l'action là-bas et on va me recevoir. Il va y avoir... ça va être 11 villes différentes en France.
Oui,
le public m'attend, les diffuseurs. Alors, c'est extraordinaire.
On va en parler.
Je suis heureuse de repartir, là. C'est un grand bonheur pour moi, oui.
Dominika, d'où vient cet amour pour la chanson et le piano?
Ben en même temps, ben quand j'étais toute petite, à l'âge de 5 ans, je voulais chanter. Il y avait un piano dans le salon et on m'a dit, en fait, mes parents m'ont inscrit avec un professeur privé. Puis là, on m'a dit que c'était mieux d'apprendre un instrument avant de chanter. À l'âge de 5 ans, la voix se place pas tout seul, mais j'ai adoré l'instrument. Alors j'ai fait comme des études ensuite à l'école de musique Vincent d'Indy.
Oui.
Et évidemment, je dévorais les livres de solfège, j'ai étudié en musique classique,
oui,
au début, et pendant plusieurs années, l'instrument, le piano, et puis j'ai aussi également travaillé ma voix, donc toutes les pièces classiques.
Oui, parce que c'est le premier instrument de l'être humain, la voix.
Tout à fait, le piano, mais en fait, c'est quand même la coordination des deux mains, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, je m'accompagne en fait dans des tournées. Mmh. Et lorsque je suis avec des musiciens, bon, parfois j'alterne aussi. Bon, je suis pas toujours au piano, mais c'est je fais comme dans beaucoup d'endroits en fait en France, des concerts piano-voix où il y a un piano à queue. Et puis alors c'est pour ça que je suis très très heureuse de pouvoir avoir appris comme cet instrument, parce que c'est autant ma passion, le piano, que la voix.
Oui, oui, oui.
Et je suis issue d'un milieu artistique également. Mon père est sculpteur peintre et ma mère, elle est comédienne. Donc, et ma tante, elle était chanteuse d'opéra.
D'une famille
tous
d'artistes.
Tous les dimanches, il y avait toujours des réunions familiales. Ma tante Colette Merola apportait des disques de la chanson française, des disques italiens. Et puis, c'est quand j'ai entendu le premier opéra en fait de Bizet, Carmen.
Oui.
La passion, j'avais 5 ans. J'entendais Carmen chanter entourée de toréadors et je me suis dit, je veux chanter.
Oh. Ah
oui, c'était vraiment, ça a été mon coup de foudre, cette pièce.
Wow. Alors, ouais. quand on se fait dire par un grand animateur de présentateur de télé, Michel Drucker, qui n'a pas hésité à vous qualifier d'une des plus belles voix du Québec, comment on se sent?
Ben, en fait, ça m'a vraiment... J'ai été très émue de le rencontrer, puis c'était en 2019, en fait, avant que la pandémie arrive.
Oui.
J'étais en tournée en France et j'avais une série de spectacles à Paris et je l'ai rencontré. Et c'est ça, il m'a présenté. Puis alors, ça a été comme un... Oui, ça a été très... ça m'a beaucoup touchée.
Il est tombé sous le charme de votre voix.
Oui, exactement. Mmh. Puis c'est un homme tellement sympathique, aussi chaleureux. Alors, ça a été vraiment une belle rencontre, magnifique rencontre que j'oublierai jamais.
Oui.
Et ben c'est ça, c'est que ça a été vraiment, vraiment une belle, belle rencontre. Une wow. magnifique rencontre.
Bravo, parce que moi, je vais vous dire, j'ai écouté plus d'une dizaine de pièces, mais je ne peux pas jouer 10 pièces à notre courte conversation entrevue. Je n'ai choisi que 2 qu'on va écouter une deuxième. Voilà, je ne sais pas, on a encore 3 minutes pour pouvoir écouter une deuxième. Mais quand vous, pour la France, là, vous partez ceux-là, ou bien il y a des artistes qui sont sur place qui vont vous accompagner, ou bien des Québécois qui vont vous accompagner, des Montréalais qui vont vous accompagner?
Non, c'est en fait, je pars avec mon conjoint qui est directeur de tournée, Jacques.
Oui.
Jacques Van de Voorde. Et alors, une fois rendu là-bas, bon ben toute la tournée est organisée.
Oui.
Et je rencontre bon les diffuseurs comme m'accueille et puis mais par contre, je vais faire beaucoup de concerts. Je vais faire des concerts piano-voix dans des théâtres et tout ça. Et puis à Troyes.
Oui.
Je vais être accompagnée de 3 chorales. Il y a 3 chorales qui vont chanter avec moi pour plusieurs pièces. Évidemment, il va y avoir une chef de chœur qui va diriger les chorales. Il va y avoir aussi une musicienne qui va m'accompagner aussi pour plusieurs pièces. Mmh. Alors, ce sera comme... ce qui est extraordinaire, c'est que Marguerite Bourgeois a fait le 400e de Marguerite Bourgeois.
Oui.
Je vais le présenter en 2020, justement, pour son 400e, à Troyes, dans sa ville natale.
Oui.
Et ensuite, il y a eu la pandémie et... Marguerite Bourgeois est venue à Montréal, elle a vécu à Montréal, elle a fondé une première école et ça a été vraiment à l'ouvroir de la Providence. Elle a été très active à Montréal, alors elle est très très importante. Et j'ai présenté ce concert en hommage à Marguerite Bourgeois.
Oui.
À la chapelle Notre-Dame de Bon Secours en octobre dernier. Donc ce qu'on a entendu tantôt, c'était une pièce tirée, en fait, du concert à la chapelle Notre-Dame de Bon Secours.
Oui, et puis c'est elle qui est derrière cette chapelle Notre-Dame de Bon Secours de Montréal, hein?
Oui, tout à fait. Et mm-hmm. j'étais entourée de mes musiciens.
Oui.
Alors, l'année, 2 ans plus tard, en 2022.
Oui.
Je vais me retrouver à Troyes, en fait, qui est comme la semaine prochaine. En fait, le concert va avoir lieu le 4 mai.
Oui.
Dans l'église Saint-Jean du Marché. Et Troyes, c'est la ville natale de Marguerite Bourgeois.
Oui, c'est là où elle est née, un 17 avril 1620.
C'est incroyable. Alors, c'est pour ça qu'en 2020, c'était son 400e anniversaire.
C'est ça. C'est effectivement, c'est pourquoi quand j'ai vu votre date de départ pour votre tournée en France, le 17 avril, je me suis dit, est-ce que... Voilà, il faut que ça, il faut qu'elle quitte.
Ah, c'est ça, c'est ouais. jour de Pâques, mais c'est vrai, vous avez raison. C'était, oui, tout à fait, c'était sa naissance
oui.
en même temps. Alors, C'est comme, je devais comme commencer la tournée avec Marguerite Bourgeois, mais finalement, c'est le 4 mai.
Oui.
On va avoir l'inauguration du Vitrail, ça va être un événement très, très important là-bas. Et...
On va écouter une deuxième pièce de vous, mais cette fois-ci, vous n'êtes pas seul, vous avez été en complicité avec Cheng Wei Kuo.
Mon Dieu, mais oui.
C'est... J'ai adoré ce duo-là, je l'ai réécouté plusieurs fois.
Alors, c'est ça, c'est que... Cheng Wei, c'est une grande amie, une grande cantatrice, une soprano taïwanaise qui habite à Taïwan présentement. Et je devais partir en tournée la rejoindre.
Oui.
On avait toute une série de concerts,
oui.
L'équivalent du théâtre Maisonneuve, la Place des Arts. Oh. Mais il y a eu la pandémie. Je devais être là comme durant
virus.
L'été, en fait, 2021.
Oui.
Mais ça a été reporté, cette grande tournée, avec elle en 2023. Mais c'est ça, c'est que j'ai composé, en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai composé une pièce sur un texte de Isabelle Lavoie.
Mmh.
Et en distance, on a enregistré, en fait, on a fait une vidéo, en fait.
Oui, oui, j'ai lu les commentaires, la description même de la vidéo.
Tout à fait. Laisse-toi bercer. En fait, elle a chanté, en fait, dans sa langue.
Oui.
Et alors, ça fait comme ça, ça écrit un duo. Bien mon Dieu, vous avez fait beaucoup de recherches, bravo.
Oh ben, je ne tiens pas compte seulement du communiqué de presse qu'on m'envoie. Laisse-toi bercer, Dominika Merola, avec la complicité de son amie taïwanaise, Cheng Wei Kuo. Allez, on écoute.
Merci.
Parce que le temps s'arrête, ce soir je ferme mes yeux, au lit des prières, à la source du feu.
希望有一只手 能冲洗人生, 泪流如雨下, 就像明日一样.
Grand voyage,
停留在你身上, 沉船的时刻.
Laisse-moi te bercer, te recouvrir,
这么多的暴风雨,
pour une seule île. Parce que ce mal t'empêche de dormir, de peur des nuages, plus que de tes désirs.
Je看看这些你想寻找的海岸, 在这燃烧的世界, 已不再是秘密.
Quand tu touches à la mort, seul devant Dieu, quand tout s'éteint le soir, à la fin de tes voeux,
laisse ton âme,
repose ton nom sur l'étoile, que renaisse la passion. Parle-moi
C'est Dominique Améro, là, avec la complicité de son ami
Cinque. Et c'est, je la redécouvre. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on a enregistré à distance.
Oui. Vive la technologie.
Je n'en reviens pas, je réécoutais. Et puis, ça a été enregistré dans des studios, en fait. Elle a enregistré sa voix là-bas, à Taïwan.
Oui.
Et puis, moi ici.
Comme beaucoup d'artistes
Montréal.
Le font maintenant depuis
et
la pandémie.
Ensuite,
voilà.
Le vidéo a été réalisé, en fait, par Maxime. Et puis, puis tout ça, c'était pendant la pandémie.
Oui.
Et ce duo-là nous a lancé, en fait, parce qu'on m'a invité par la suite à aller faire une tournée là-bas. À Taïwan.
Oui.
Et bon, c'est reporté en 2023 dû à la pandémie parce qu'eux autres, là-bas, c'est zéro, hein, zéro COVID. Nous, on vit avec maintenant, avec les éclosions, mais eux, là-bas, c'est très compliqué d'aller là-bas présentement parce qu'on doit comme rester 2 semaines dans un hôtel isolé. Puis, trop compliqué.
Oui.
Alors, on s'est dit en 2023.
Comment la rencontre s'est faite?
Ben, en fait, c'est que Cinque, elle, a habité Montréal.
OK.
Et c'est comme on s'est rencontrés en fait à Montréal on donnait des concerts et puis on s'est rencontrés, on a vraiment tout de suite lié une complicité, puis on est devenus les grandes amies, puis même elle habitait pas loin de dans mon quartier.
En plus,
alors
oui.
On se voyait et puis il y a quelques années, il y a 5 ans, elle a décidé de repartir en fait dans son pays.
Dans son pays d'origine définitivement ou bien elle va revenir à Montréal peut-être?
En fait, elle revient de temps en temps, mais c'est sûr que depuis, la dernière fois que je l'ai vue, c'était avant la pandémie, on s'était rencontrés durant l'été.
Oui.
C'était 2019, c'est ça. Alors, elle va, mais je crois que c'est moi qui va, il va aller là-bas avant, avant qu'elle revienne, parce que ça sera plus simple probablement pour moi de la rejoindre et puis qu'on fasse une tournée là-bas. Ouais.
OK.
Mais de toute façon, déjà, il y avait toutes les salles, toutes les beaux grands théâtres, des salles de concerts qui étaient toutes planifiées, c'est ça. Mais déjà, c'est reporté en 2023. C'est quand même incroyable, hein, que la pandémie, tout ce qu'il y a. Mais en même temps, je veux dire, on a continué à chanter, on a fait des concerts virtuels.
Il le fallait.
Moi, j'ai gardé comme le contact aussi avec les diffuseurs, avec les gens du milieu du spectacle, avec mes amis, les artistes. Donc, et puis, c'est comme on se soutenait ensemble, ouais. Puis aujourd'hui, maintenant, au moins, je veux dire, on peut comme reprendre, on peut refaire les concerts, on peut, tu sais, je peux comme repartir en France, en Europe, c'est ça qui est extraordinaire.
Oui, et puis de toutes les façons, le système hybride va rester, hein.
Oui, tout à fait.
En présentiel,
oui,
et puis, voilà,
ça,
c'est intéressant, c'est le bon côté aussi.
Oui, ça c'est vrai, parce que ça m'a permis, en fait, je suis devenue meilleure dans la technique.
Ça vous a permis de vous améliorer techniquement parlant, quoi, avec les technologies.
À un moment donné, je veux dire, on pouvait pas être plusieurs musiciens. Alors, j'avais présenté un concert piano-voix, c'était à l'extérieur, dans des jardins et tout ça. Alors, au début, comme une console, et puis bon, de brancher le piano et tout ça. Mais maintenant, je suis vraiment, on a fait comme des concerts virtuels, quand toutes les salles de concert étaient fermées.
Oui.
J'ai fait ça même, j'avais une demande de la délégation du Québec à Saint-Malo.
Oui.
La délégation du Québec à Paris. Je devais aller chanter, justement. Et puis, bon, ils m'ont demandé de faire un concert virtuel. Alors, c'était l'été, je crois, c'était en 2020, où tout était fermé.
Oui.
Il faisait beau, comme aujourd'hui, mon Dieu, même plus chaud encore. C'était l'été, au mois de juin.
Oui.
Et j'ai chanté, comme pour le festival d'été. Et je me suis installée dans ma cour. Alors, il y avait tout le système. Il y a un ami technicien de son qui est venu et qui m'a aidé. En fait, j'avais comme branché, mais je voulais vraiment avoir un beau son, une belle captation.
Oui, oui.
Puis, il faisait beau. J'avais comme apporté des fleurs pour créer un environnement floral. Et puis, j'ai fait le spectacle dehors. Et c'était comme... et puis, à un moment donné, il y avait tout le voisinage qui était... qui avait assisté à l'extérieur. Donc, ça m'a vraiment fait chaud au cœur.
Oui,
ça a été comme diffusé en direct en France.
C'est venu pour rester. Ça va pas. On ne veut plus se séparer de ça. Mais quel est le lien qui vous lie musicalement avec Marguerite Bourgeois? Pourquoi je sais que c'est une personnalité.
Oui, c'est une très bonne question. Savez-vous que ma mère, quand elle était... elle était plus jeune, en fait, à l'âge de 18 ans, elle a été au collège Marguerite Bourgeois.
Oui.
ma mère, en fait, vient de Saint-Jean-sur-le-Richelieu.
Oui.
Elle est venue à Montréal et elle a été au collège Marguerite Bourgeois à étudier. Et elle était comme rendue dans son cours de rhétorique, de philosophie. Puis on a demandé, en fait, aux élèves d'écrire un texte. Et son texte a été choisi. Elle avait choisi comme... elle faisait un parallèle avec la femme forte biblique.
Oui.
Et la femme forte, en fait, de l'Évangile, en fait, la femme forte Marguerite Bourgeois.
Wow!
Alors, je me suis inspirée, justement, de... Bon, qui trouvera une femme forte? Ça fait partie... elle est plus forte que les perles précieuses venues des extrémités du monde. Tu sais, c'est... Et je commence, en fait, avec... des phrases, en fait, qui sont tirées comme de l'Évangile.
Oui.
Et je présente mes pièces, et puis il y a comme tout un... vraiment un lien de transition avec les pièces de caractère, bon, classique, italien, et quelques pièces religieuses, dont Ave Maria. Et j'ai comme composé deux pièces pour... La circonstance, en fait, pour Marguerite Bourgeois, oui. Un nouveau monde, qui est une pièce instrumentale. Et tous des oiseaux.
Oui.
Alors,
Dominica?
Oui?
Pour les 30 dernières secondes qui nous restent, quel est le message que vous avez à lancer?
Oh mon Dieu, c'est bien.
Oh, on est déjà à la fin. Oui, on est déjà à la fin de l'émission.
Oh, voilà. Bien, merci beaucoup. Vraiment, ça m'a fait un grand plaisir, Dulgence. C'était très agréable.
Je vais parler de vos différentes dates.
Je vais revenir au mois de... au mois de mai, en fait, à la fin du mois de mai.
Oui.
Je vais avoir comme des engagements. Ben, le prochain engagement va être le 11 juin à Joliette, en fait, à l'église Sainte-Mélanie de la Naudière.
Oui.
Or, je suggère, en fait, aux auditeurs, aux gens, ben, vraiment de prendre soin d'eux, de profiter du beau temps.
Oui.
Le printemps est arrivé, l'été arrive aussi, donc... après tout ce qu'on a vécu, ça fait du bien d'être à l'extérieur. Et puis, si on a envie comme d'aller venir m'entendre en concert, ils peuvent aller visiter mon site Internet aussi, Dominica Merola. Et je vais annoncer comme toute la série de spectacles, de concerts. Et c'est sûr que j'aurai plein de choses à raconter au retour de ma tournée, quoi.
Merci beaucoup, Dominica Merola. Chanteuse, compositrice, pianiste.
Allez, c'était très agréable.
Bon séjour en France et au plaisir de vous réentendre pour d'autres projets.
Ah ben merci à vous aussi, au revoir.
Merci, au revoir. Thank you. Zanky, Riches. Dis merci à Daniela Ferrier qui est venu nous parler de son nouveau livre et du précédent aussi. Son nouveau livre, c'est sur la route avec Basho, un poète japonais du XVIIe siècle. Et son précédent, c'est le petit traité sur le racisme, tous deux aux éditions Boréales. Et mon invité de la deuxième partie de l'émission, Dominika Merola, qui sera en tournée, qui a fait un spectacle dans le cadre du 400e de Marguerite Bourgeois à la Chapelle Notre-Dame de Bon Secours de Montréal. Elle s'envole le 17 pour la France pour une tournée française, bien sûr. Merci à toi, Nicolas. On se retrouve demain. Et merci à nos fidèles auditeurs auditrices. On les retrouve demain. Et puis, bon, ben voilà. Moi, tout de suite, je leur dis, prenez soin de vos minutes. Toi aussi, prends soin de tes minutes, Nicolas. Et on se retrouve demain à la même heure sur les ondes de Canal M. Je vous dis ciao.
Pour reconnecter Simon et Pierre-Luc à...
Deux relish moutarde puis le liqueur.
Et surtout à ça.
Yeah! Voyons, j'ai plus de voix.
Il y a la STM. La meilleure façon de se reconnecter.